Il est 11h30, Infomag avec Lionel Sabou.
Un accord complémentaire à l'accord de Bougival, baptisé Élysée Oudinot. Il a été signé cette nuit à l'Élysée par les délégations politiques calédoniennes qui étaient réunies à Paris. Les partenaires ont aussi travaillé sur le volet économique. Un relevé de conclusion a également été signé au ministère des Outre-mer. Il renforce l'engagement de l'État aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. L'année 2025 est restée compliquée pour la SLN. Son PDG Guillaume Curec a fait le point ce matin. La production est repartie à la hausse, mais on est encore très loin de la production nominale. La météo toujours capricieuse sur le territoire. 13 communes de la côte est en vigilance orange, forte pluie et orage. Le reste du territoire est en vigilance jaune. Sébastien Lecornu aura finalement recours au 49-3 sur la partie recette du budget. Le Premier ministre renonce aux ordonnances pour faire adopter le projet de loi de finances. Et puis le sport avec du tennis et l'exploit du jeune Arthur Géa au premier tour de l'Open d'Australie. Le Français s'est imposé hier soir sur le Tchèque Jiří Leška en 3-7. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, un coup d'œil à notre magazine citoyen. Nous parlerons du mangeons local. La Chambre d'agriculture et de la pêche milite pour mettre plus de produits locaux dans les assiettes des Calédoniens. Et pour cela, une charte a été signée sur le marché de gros de Ducos. Pour en parler, nous recevrons juste après ce journal le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Jean-Christophe Niotou. Nous recevrons aussi Vincent Tantrong, qui est arboriculteur, Marc Poncelet, pêcheur, et Kathleen Rabat, qui est revendeuse grossiste sur les marchés. La transformation des marchés calédoniens, c'est à retrouver juste après ce journal. Un accord complémentaire à l'accord de Bougival, son nom Élysée Oudinot. Il a été signé cette nuit à l'Élysée par les délégations politiques calédoniennes qui étaient réunies à Paris depuis vendredi à l'invitation du président de la République, hormis le FLNKS qui a décidé, vous le savez, de ne pas participer à cette séquence, Nicolas Legrand.
Oui, l'objectif était d'apporter des éclaircissements à l'accord de Bougival signé en juillet 2025, mais sans en changer l'esprit et les équilibres. Souvenez-vous, après un discours du chef de l'État vendredi à l'Élysée, les groupes politiques favorables à cet accord de Bougival se sont retrouvés rue Oudinot au ministère des Outre-mer pour poursuivre les échanges. Et c'est donc ce matin que l'accord Élysée-Oudinot a été signé à l'issue de 3 jours de travaux. Et c'est Emmanuel Macron qui a conclu la séquence. Avant la signature de cet accord complémentaire, le président de la République a tenu à saluer le travail des délégations.
Mes mots sont d'abord des mots de félicitations et de reconnaissance pour vous-même qui vous êtes engagé dans ces discussions et ces groupes de travail durant tous ces derniers jours, pour le travail qui a été fait, pour le sens du compromis, le sens des responsabilités et le courage, je l'évoquais vendredi après-midi, car je ne mésestime pas les menaces inacceptables dont vous avez, pour plusieurs d'entre vous, fait l'objet. Tous les auteurs de ces messages seront poursuivis. La République impose le respect de chacune et chacun et évidemment la protection de toutes celles et ceux qui s'engagent dans le cadre de leur mandat avec le sens des responsabilités.
Le chef de l'État se félicite du travail de clarification de l'accord de Bougival et de l'approfondissement du travail sur le pacte de refondation de l'économie calédonienne.
Nous avons donc aujourd'hui 2 textes. Un accord complémentaire à l'accord de Bougival, Élysée Oudinot, qui est remis sur table, qui est l'accord politique. Et celui-ci fait référence dans son paragraphe 3 à un relevé de conclusion de travaux et donc un protocole financier qui a fait aussi l'objet d'un accord. Je veux insister sur l'importance de cet accord. Et je pense qu'il est important, je sais que vous avez déjà fait ce travail durant ces dernières heures, mais d'abord que l'ensemble des signataires puissent, au-delà de cet accord, formellement le signer, l'endosser et envoyer aussi un signal extrêmement clair à la représentation nationale et donc à nos députés et nos sénateurs qu'il fait l'objet d'un accord unanime.
Au cours de sa prise de parole, Emmanuel Macron a salué le travail à Paris, notamment de Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle pour la relance de l'économie, du préfet Rémi Bastille et évidemment de la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou qui a elle aussi réagi.
3 jours de travaux exigeants pour parvenir à un accord. Vous avez ici des forces politiques, indépendantistes, non indépendantistes, qui ont accepté de se parler, de se confronter aussi parce qu'elles portent des récits et des projets différents et de travailler ensemble. Moi je veux le saluer. Et je vais vous dire, ça mérite du respect. Le président de la République l'a dit lui-même, l'avenir appartient aux courageux. Vous avez là des gens courageux qui ont décidé de travailler pour les Calédoniens. Vous avez désormais un accord global pour le territoire qui va permettre à la Nouvelle-Calédonie de marcher sur ses 2 jambes, le volet politique et le volet économique. On n'est pas là pour célébrer, hein, je vous le dis très clairement. On est là pour acter une étape. Une autre va s'ouvrir, celle du Parlement. Il faut qu'on soit dans la phase d'après. Le Parlement, les députés, les sénateurs doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas demander aux Calédoniens de faire le pas, de construire le chemin, de faire des concessions, de parvenir à un compromis, et Paris ferait le petit bras. Ça n'est pas possible, ça n'est pas entendable.
Un accord signé et endossé, dit Emmanuel Macron, dans lequel les partenaires ont donc précisé 5 points. Nous allons y revenir. L'exercice du droit à l'autodétermination, la reconnaissance de l'identité kanak, le renforcement de l'attractivité économique, le rôle et la portée de la loi fondamentale, ainsi que la capacité d'auto-organisation des institutions calédoniennes, et enfin un calendrier. Le premier point est donc celui de l'exercice du droit à l'autodétermination. Les partenaires rappellent que le caractère binaire des référendums prévus par l'accord de Nouméa et leurs résultats ont profondément divisé la Nouvelle-Calédonie. Il réaffirme donc, je cite, que chaque Calédonien a le droit de voir reconnaître ses aspirations politiques et il incombe aux partenaires d'organiser la coexistence de ces aspirations, même lorsqu'elles divergent, dans le respect du vivre ensemble, de la paix civile et de la sécurité de tous. À cette fin, l'exercice du droit à l'autodétermination s'exprimera par la possibilité pérenne de transférer les compétences encore détenues par l'État dans un cadre organisé avec lui, selon les modalités garantissant l'esprit du consensus, l'exigence de majorité renforcée et l'approbation d'une majorité de Calédoniens. Les signataires souhaitent que le comité de suivi prévu par l'accord de Bougival soit réuni annuellement pour permettre un échange entre les partenaires sur la bonne mise en œuvre des orientations conjointement arrêtées. Et à l'issue de chaque mandature du Congrès, un bilan du processus de décolonisation sera élaboré et débattu. Et si l'ensemble des compétences régaliennes de l'État venait à être transféré à la Nouvelle-Calédonie, alors les partenaires se réuniraient afin d'en tirer les conséquences sur la relation entre l'État de la Nouvelle-Calédonie qui serait créé et la France. Un troisième point concerne donc l'attractivité économique qui fera l'objet d'une loi organique. Elle mettra l'accent notamment sur le rôle des provinces et notamment sur les compétences pouvant être déléguées de la Nouvelle-Calédonie vers une province. Il s'agit là d'un point important qu'il fallait préciser, nous a dit Sonia Baquès, la présidente de la province Sud et signataire pour les loyalistes de l'accord Élysée-Oudinot. Elle était notre invitée du matin à 7h30 depuis Paris.
Deux accords qui sont indispensables pour la Nouvelle-Calédonie. Le premier accord politique qui vient confirmer l'accord de Bougival et tout ce qu'il comporte dans sa lettre et dans son esprit. Évidemment, ce qu'on connaît sur le corps électoral, le dégel du corps électoral, etc. Mais également l'esprit de vouloir construire ensemble et de ne plus vouloir avoir de référendum binaire. Donc je crois que c'était important de le confirmer. Il y avait ensuite des choses à clarifier. Sur les compétences aux provinces, il était question de dire que les provinces pouvaient disposer d'un certain nombre de compétences qu'elles demandaient, mais sans savoir exactement comment ça se passait. Là, en fait, on a précisé les choses, l'idée étant que les provinces, finalement, puissent mettre en œuvre les dispositions qu'il faut pour leur attractivité économique. Et donc, c'est un peu ça qu'on a décliné, c'est-à-dire de dire finalement les provinces sont vraiment les collectivités qui ont la compétence en matière de développement économique, donc d'attractivité économique. Et donc, c'est un peu ces outils-là qui ont été clarifiés, qui n'étaient pas forcément très précis dans l'accord de Bougival et qui sont précisés dans cet accord.
Pour Sonia Baquès, l'accord de Bougival était certes un chemin étriqué, mais c'était le seul possible.
C'était la seule ligne de crête possible. Et la vocation, cet accord, a diffusé une vision différente. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand même qu'on n'est plus dans quelque chose de binaire. Les indépendantistes d'un côté, les non-indépendantistes de l'autre. C'est pas pour ça que ça va s'effacer demain. Mais en tout cas, on est dans la volonté de dire il peut plus y avoir que les uns contre les autres. Parce que tout est fait avec des majorités qualifiées et on peut pas obtenir l'indépendance à 50,01 ou au contraire des choses qu'on voudrait nous à 50,01%. On est dans une recherche de consensus. Et le deuxième élément qui est important, c'est qu'on n'est plus dans ce qu'il y avait dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire les Kanaks d'un côté, les autres de l'autre. On est dans cette volonté de construction de l'identité calédonienne. Je crois que ce complément à l'accord, il permet de réellement imaginer qu'on puisse, même si on n'a pas la même volonté de souveraineté, de construire quand même entre tous les Calédoniens.
Côté réaction encore, celle du député de la première circonscription. Écoutez la satisfaction de Nicolas Metzdorf que nous avons joint ce matin.
C'est une grosse étape de passé avec l'ensemble des délégations calédoniennes qui ont voulu trouver cet accord. Un accord officiellement écrit comme complémentaire à l'accord de Bougival. On est venu préciser les sujets liés à l'identité kanak et l'identité calédonienne, à l'autodétermination, à l'attractivité économique et aux provinces, au calendrier. Et on a un accord aussi de relance économique où l'État s'engage à mettre de l'argent au budget 2026 pour sauver les collectivités, à transformer les prêts en subventions et à secourir nos régimes sociaux et de retraite. Donc clairement, c'est un bon accord pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai envie de dire que le plus facile a été fait et que le plus dur désormais commence. Il faut aller convaincre le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale de voter les textes qui appliquent cet accord.
Virginie Rufnak a signé également ce document pour le Rassemblement. Elle salue le travail de consensus, elle aussi.
C'est une grande satisfaction pour notre groupe, le Rassemblement, puisque finalement nous avons réussi, avec des hommes et des femmes courageux, élus de la Nouvelle-Calédonie, à trouver le chemin. C'est important parce que cet accord donne de la visibilité aux Calédoniens, mais surtout parce qu'il est très fortement accompagné d'une aide à l'économie de la Nouvelle-Calédonie, un accompagnement financier qui vient véritablement soutenir les Calédoniens avec un investissement massif de la part de l'État qui montre finalement son attachement aux Français de Nouvelle-Calédonie que nous sommes. À la fois les retraites, le système électrique de la Nouvelle-Calédonie, le système de santé est protégé par l'accord financier que nous avons mis en place et un système de désendettement de la Nouvelle-Calédonie est prévu. Donc après ces 3 jours, nous sommes très satisfaits. Nous espérons maintenant que nous allons pouvoir convaincre les parlementaires de voter cet accord historique.
Et à la sortie de l'Élysée, Philippe Dunoyer a également réagi pour Calédonie Ensemble. Tendez bien l'oreille puisque l'interview a été réalisée en pleine rue.
Je suis conscient de la réalité du paysage politique national. Je suis prudent, je ne vais certainement pas m'avancer en disant que je suis certain d'une issue ou d'une autre. Par contre, je pense que la séquence qu'on vient de conclure est un élément supplémentaire qui doit permettre aux parlementaires de comprendre que ce processus est un processus institutionnel nécessaire. Il nous est demandé depuis 2021. Il est encore, je le redis, incomplet puisqu'il manque l'UCFNKS, mais l'UCFNKS ne veut pas participer à ces discussions. Donc il faut quand même qu'on continue d'avancer. Les Calédoniens méritent qu'on avance et qu'on leur présente des solutions. Et j'espère que les parlementaires vont comprendre cette situation qui, sans être parfaite ou idéale, est la meilleure solution possible aujourd'hui pour permettre à la Calédonie de sortir de cette crise qui la frappe depuis un an et demi.
Et signalons du côté de Calédonie Ensemble toujours que Philippe Gomès n'est pas signataire de cet accord Élysée-Oudinot. Il était présent à l'ouverture des travaux à l'Élysée vendredi, mais n'a pas participé ensuite aux échanges au ministère des Outre-mer. Réaction également de Velma Falaeo, la présidente du Congrès pour l'éveil océanien, également signataire.
C'est une satisfaction après 3 jours de discussions, de négociations qui n'ont pas forcément été faciles. Nous avons eu tous la volonté d'avancer pour la Nouvelle-Calédonie et je trouve que c'est une note positive, notamment parce qu'il y a eu non seulement les éclaircissements à apporter à Bougival, mais et surtout la partie économique qui répond à nos préoccupations qui concernent le territoire. Nous avons fait le travail, la suite c'est maintenant le soutien des parlementaires nationaux. Et nous espérons, certains avant leur retour en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir rencontrer que ce soit les groupes de députés ou les groupes de sénateurs.
Côté indépendantiste maintenant, outre la question de l'autodétermination, l'UNI attendait également des précisions sur la question de l'identité kanak. Les signataires réaffirment leur attachement au préambule de l'accord de Nouméa. Ils considèrent que le projet de société, tel que conforté par l'accord de Bougival, continue de reposer sur la reconnaissance des identités plurielles que l'histoire a mêlées en Nouvelle-Calédonie et sur la pleine reconnaissance des faits historiques. Ils réaffirment leur attachement au principe de reconnaissance de l'identité kanak tel que prévu par l'accord de Nouméa. Écoutez Jean-Pierre Djaïwé, chef de la délégation unis.
Nous avons travaillé pour notre pays. Ce sont des concessions qu'on a faites les uns et les autres pour pouvoir parvenir à cet équilibre. Et donc c'est une satisfaction aujourd'hui que l'on puisse parvenir à trouver cet accord qui vient compléter l'accord de Bougival et puis tout le volet économique et social. Et puis je voudrais dire à mes collègues qui sont ici merci. Nous avons un défi qui est devant nous aujourd'hui. C'est celui qui est précisé dans l'accord de Nouméa qui dit que l'avenir est le temps de l'identité dans un destin commun. Et je pense que c'est tout ça le défi qu'on doit relever tous ensemble avec mes collègues qui sont ici.
Un document donc signé par Sonia Baquès, Nicolas Metzdorf, Brieux Frogier et Gilles Brial pour les loyalistes, Virginie Rufnak, Pascal Vittori et Alcide Ponga pour le Rassemblement, Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble, Adolphe Digoué, Jean-Pierre Djaïwé et Victor Tutugoro pour l'UNI, Vaimoa Mouliava et Velma Falaeo pour l'éveil océanien. Je précise que Milakulo Tukumuli, qui a pris part aux travaux, n'est pas signataire car il a dû quitter Paris avant la conclusion de cet accord complémentaire pour des raisons personnelles. Le document de 4 pages fait donc aussi état d'un nouveau calendrier. L'examen et le vote du projet de loi constitutionnelle au Sénat est prévu le mois prochain, en février. En mars et avril, le texte passera devant l'Assemblée nationale, puis au Congrès de Versailles. L'accord politique, lui, sera soumis aux Calédoniens en juin-juillet. Quant à la loi organique, elle fera son chemin parlementaire entre septembre et novembre. Et les élections provinciales, qui jusque-là étaient prévues avant fin juin, se tiendront désormais avant le 31 décembre 2026. Et si le projet de loi constitutionnelle est adopté, ces élections provinciales se tiendront avec un corps électoral dégelé, conformément à ce qui avait été acté à Bougival en juillet dernier, c'est-à-dire pour les natifs et ceux qui ont 15 ans de résidence sur le territoire pour ces premières élections. Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix, se satisfait de ce complément à l'accord de Bougival, mais il maintient toutefois, malgré tout, son recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour s'assurer de ce fameux dégel.
C'était un éclairage nécessaire à Bougival, avec des compromis, avec des consensus. On peut se féliciter du travail, même si nous, au niveau de l'association Un cœur, une voix, on déplore que le corps électoral soit autant encore fermé 15 ans pour 2026 et 10 ans pour les élections suivantes. Cet accord est bien sûr une très bonne chose pour les Calédoniens et Calédoniennes, mais nous irons malgré tout devant la CEDH parce que nous avons l'expérience qu'un accord politique peut être remis en question et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La confiance n'exclut pas le contrôle. Nous irons devant la Cour européenne des droits de l'homme pour garantir la démocratie en Nouvelle-Calédonie parce que c'est nécessaire.
Voilà donc pour les réactions politiques à ce complément à l'accord de Bougival, l'accord qui porte désormais le nom Élysée-Oudinot, que vous pouvez retrouver sur notre site internet le www.rrb.nc.
Et dans cet accord complémentaire à celui de Bougival, il est notamment question de l'attractivité économique. Un relevé de conclusion consacré au volet économique et social complète cet accord qui repose sur deux piliers, la refonte du modèle institutionnel et le pacte économique et social, Léana Colombo.
Et l'objectif de l'État et des partenaires calédoniens est clair, stabiliser durablement les institutions pour relancer la croissance, rééquilibrer les finances publiques et offrir de nouvelles perspectives économiques. Sur le plan budgétaire, l'État confirme ses engagements pour 2026. Près de 662 millions d'euros seront engagés hors filière nickel et 478 millions d'euros de paiements seront inscrits dans le projet de loi de finances. Christophe Dautieux, président de la CPME, se dit satisfait de ce relevé de conclusion, mais reste prudent jusqu'à l'adoption d'un projet de loi de finances.
Ça rejoint ce qu'on espérait, c'est d'aboutir à une signature d'un complément de cet accord. Qui concerne la partie économique, ça reste sur les mêmes lignes de ce qui a été déjà discuté depuis quelques semaines et la venue de Claire Durieux en début d'année. On est sur les mêmes montants. Ce qu'on attend simplement, c'est que justement, il était lié à cet accord. Donc, il était important que cet accord soit signé à Paris et reste malgré tout en question. C'est ce vote national, parce que sans vote du budget national, rien ne se passera non plus de ce côté-là. Donc tout le monde se tient. Ce qu'on demande, c'est que tout le monde avance dans le même sens et que les choses avancent le plus vite possible.
Pour faire face aux urgences sociales et financières, une subvention exceptionnelle de 60 millions d'euros est accordée à la Nouvelle-Calédonie. L'État accepte également un rééchelonnement de la dette, faisant de 2026 et 2027 des années blanches pour le remboursement des prêts. À cela s'ajoutent 200 millions d'euros pour la relance de l'investissement public, 10 millions d'euros dédiés aux dépenses sociales de proximité et un engagement à ajuster sur certains dispositifs fiscaux en fonction de la situation économique. Christophe Coulson, secrétaire général de l'UTCFE-CGC, demande à ce que les fonds soient débloqués rapidement.
Ça a été une bonne nouvelle, qui est un document qui a pu être signé par les différentes parties. J'ai pu prendre connaissance de ce document et on s'aperçoit que sur le volet social, et notamment sur la maladie, sur le RUAM et sur le volet retraite du secteur privé, il y a les deux sujets qui nous préoccupent principalement aujourd'hui, puisque la date d'échéance d'épuisement des réserves se situe au mois d'avril 2026. On peut voir que sur ces deux sujets-là, l'État a pris conscience qu'il fallait agir très vite et je me sens un peu plus rassuré, mais pas complètement rassuré à ce stade. Il faudrait que les fonds soit disponible rapidement, en fait. Quand on connaît les lenteurs de l'administration ou du déblocage de ce genre de finances, je suis un peu encore pas tout à fait rassuré.
De son côté, Mimsy Délé, présidente du MEDEF-NC, rencontrera demain la ministre des Outre-mer pour évoquer avec elle les conclusions du volet économique et social. Concernant la filière nickel, jugée stratégique, l'État maintient une vision globale axée sur la rentabilité et la viabilité. 200 millions d'euros sont consacrés au soutien de la filière avec des aides ciblées pour PRNC, l'ASLN et NMC afin de préserver l'activité industrielle et l'emploi, notamment dans le Nord.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, à l'unanimité des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS, pensaient que les délégations politiques à Paris allaient arriver à se mettre d'accord sur un document permettant d'amender l'accord de Bougival. Voici notre question du jour. À un mois de la rentrée scolaire et après un nouvel acte de vandalisme à Dimbéa, faut-il renforcer le dispositif de sécurisation des écoles? Si vous pensez qu'il faut le renforcer, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Il est 11h50, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité. En Calédonie, nous parlerons notamment de la SLN.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Décompressez au Faramédé avec le Maridé. Si loin, mais si près, téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeisland.com.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 11h-13h, Infomag, Lionel Sabot.
Nous sommes toujours là, on avance sans certitude, mais avec plus de confiance, sont les mots du directeur général de la SLN qui a dressé ce matin un bilan de l'année 2025 et tracé les perspectives pour 2026. L'industriel est engagé pour un retour à l'équilibre, si possible, d'ici 2030. Jean-François Bodin.
Après une année 2024 qui avait laissé la SLN groggy, a dit Guillaume Curec, l'année 2025 a permis d'avancer sur plusieurs points de relance. Le premier, c'est bien sûr la matière première, c'est-à-dire le minerai. Les sites de la côte ouest ont continué à fonctionner tant bien que mal et ce sont les sites de la côte Est qui mobilisent aujourd'hui la SLN, notamment celui de Thiot, à l'arrêt depuis avril 2024. La SLN travaille à une réouverture du site depuis plusieurs mois et les choses se sont concrétisées la semaine dernière, a expliqué Guillaume Curec.
Il y a effectivement eu une réunion la semaine dernière, très importante et je peux dire très positive, sur laquelle on a convenu avec l'ensemble des partenaires qui étaient réunis, côté mairie, district, représentants des jeunes, représentants des sous-traitants, des employés. Nous avons convenu une reprise sans condition sur Thiot de l'activité minière de la SLN. Ça ne veut pas dire une reprise immédiate, ça veut juste dire qu'on a beaucoup d'étapes maintenant à franchir et qu'on va essayer de les franchir les unes après les autres pour faire les diagnostics, les destructions, les réparations, les réembauches, les relances de sous-traitants. Ça va prendre des mois, soyons bien clairs, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif qui nous permet de prévoir une relance de l'activité d'ici la fin d'année 2026. On a malheureusement dû rompre les contrats de travail de nos salariés, rompre les contrats avec nos sous-traitants il y a maintenant quelques mois. Ça a été un moment très difficile. On est resté très mobilisés pour permettre cette relance. Donc oui, on souhaite vraiment que Thiot puisse contribuer à nouveau à l'approvisionnement de l'usine de Doniambo. C'est un minerai qui convient parfaitement à notre métallurgie. Donc on a hâte de voir les premiers minéraliers partir de Thiot vers l'usine.
À Kouaoua, la mine est en activité, mais la serpentine étant hors d'usage, la SLN va devoir créer une route pour descendre le minerai et construire pour cela 4 ponts pour assurer le roulage jusqu'au site de chargement. La SLN espère aussi une réouverture des sites de Kiel et de Stamboul, fermés respectivement depuis 2017 et 2015. Réouverture sur laquelle elle travaille avec d'autres sociétés locales et notamment la NMC. La reprise de l'activité des sites miniers est donc l'un des axes sur lesquels travaille la SLN pour viser un retour à la rentabilité d'ici 2030. Mais ce n'est pas le seul.
Suivre nos économies. L'année dernière, 4,5 milliards d'économies au périmètre de la SLN. Ça touche absolument tous les postes, hein, sur l'énergie, sur la masse salariale, sur les prestations. Et puis, on ne peut pas parvenir non plus à un retour à rentabilité aux horizons 2029-2030 sans qu'il y ait une amélioration au niveau des cours auxquels on vend notre ferro-nickel. Donc, on regarde beaucoup le LME, mais en fait, comme vous le savez, on vend sur la base de la cotation de Shanghai, qui réagit un peu moins fortement que ce n'est le cas sur le LME, qui est un peu spéculatif. Mais les dernières années faites en Indonésie vont dans le bon sens. Donc aujourd'hui, notre sortie de crise est plutôt prévue à 2029-2030. Si les annonces indonésiennes se confirment, on pourrait avoir une sortie de crise même un peu anticipée de quelques mois, voire quelques années.
L'Indonésie qui a décidé de limiter à nouveau sa production pour corriger la suroffre qu'elle engendre et qui tire les prix vers le bas. Côté production, de 32 000 tonnes produites en 2024, la SLN est passée à un peu plus de 36 000 tonnes en 2025. On est encore loin de la production nominale qui tourne autour de 50 000 tonnes par an, mais la SLN espère qu'elle pourra pourra atteindre 43 000 tonnes l'an prochain. Et elle va aussi, d'autre part, poursuivre sa politique d'exportation, en deçà toutefois de ce qui se faisait ces dernières années, hormis 2024 et 2025, a expliqué Guillaume Curec.
Depuis 2024, 2025 et encore en 2026, on a une politique et des ambitions export qui sont revues à la baisse, puisque la priorité est d'alimenter Donyambo. 500 000 tonnes d'export uniquement en 2024, un peu plus de 500 000 tonnes en 2025, et on prévoit moins d'un million de tonnes d'export en 2026, donc bien loin des 3 500 000 tonnes faites il y a quelques années à la SLN.
Et même si la SLN perd encore de l'argent chaque mois, elle a obtenu l'an dernier son meilleur coût de production depuis 2021, notamment grâce à la mobilisation du corps social, a souligné le directeur général de la SLN. Guillaume Curec a également réagi au relevé de conclusions sur les questions économiques et sociales signées à Paris cette nuit, dont on a parlé tout à l'heure. Il a réagi évidemment en particulier sur le chapitre consacré à la filière nickel.
L'accord reprend des éléments qui avaient été convenus avec l'État il y a quelques semaines, dont on est effectivement très satisfait pour la partie SLN. Des points également nouveau. Je pense à NMC, puisque j'ai vu qu'un chapitre concerne NMC et des soutiens court terme qui seraient apportés. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien, parce que évidemment, il faut que la filière puisse globalement traverser cette crise. Et pour ça, il faut que tous les acteurs restent en place et que ceux qui sont à l'arrêt puissent se relancer au plus vite. C'est comme ça qu'on sera plus fort et qu'on pourra vraiment jouer notre rôle de locomotive économique pour le territoire.
Le relevé de conclusion sur les questions économiques et sociales prévoit près de 29 milliards de francs pour la SLN, un peu moins de la moitié a déjà été versée et le reste le sera en fonction des besoins et des perspectives de retour à la rentabilité, précise le document. Guillaume Curec a rappelé que cet argent sera remboursé dès que la SLN sera de nouveau rentable. On l'a bien compris, la SLN espère atteindre cet objectif à l'horizon 2029-2030.
La météo est peu d'évolution avec un temps qui est encore couvert et instable sur l'ensemble de la Calédonie. 13 communes de la côte Est sont en vigilance orange, forte pluie, orage. Le reste du territoire est pour le moment en vigilance jaune. Une vigilance orange, forte houle a également été émise pour les communes du Nord. Des averses orageuses toucheront principalement le Nord et l'Est. Au Loyauté et sur la côte Ouest, les précipitations seront plus éparses. C'est ce qu'explique Lionel Divoul, il est chef prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
Les pluies, pour l'instant, n'ont pas été vraiment significatives, même si on a pu relever sur le sud-est de la Grande Terre quelques cumuls de l'ordre de 30 mm en une heure. Néanmoins, la dégradation se poursuit, ce qui justifie le maintien de la côte est en vigilance orange, au moins pour la journée d'aujourd'hui. On peut s'attendre à une nette dégradation avec des paquets orageux qui progressivement descendent et qui vont en particulier impacter toute la façade est de la Grande Terre. Il y aura effectivement la pluie, le vent qui va progressivement se renforcer en commençant par le nord et puis progressivement descendre le long de la côte est, ainsi que les Loyautés. Après, il ne faut pas oublier aussi les potentiels cours d'eau qui pourraient déborder sur la côte ouest par effet d'accumulation d'eau sur la chaîne qui va finir par se déverser sur l'ouest.
En raison des vigilances émises par Météo France Nouvelle-Calédonie, les rotations du Bétichaud vers l'île des Pins ont été annulées. Tous les passagers impactés peuvent modifier ou annuler leurs billets sans frais. Notez également que le maire de la commune de Yengen informe la population qu'en raison de cette même vigilance orange, tous les services municipaux sont exceptionnellement fermés depuis 11 heures. La réouverture de ces services se fera demain aux heures habituelles, explique la mairie de Yengen. Il est 11h58, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans la région Pacifique.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Lionel Sabot.
Et Sébastien Lecornu qui fait volte-face et annonce l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget de l'État. Le Premier ministre s'était pourtant engagé à renoncer à cette arme constitutionnelle lors de son arrivée à Matignon en octobre dernier. Promesse impossible à tenir en l'absence de majorité. LFI et le Rassemblement National annoncent déjà le dépôt de motion de censure. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Selon les derniers décomptes d'Europe 1, Sébastien Lecornu devrait rester en poste. Seulement 260
175 députés sur les 289 nécessaires devraient voter la motion de censure. Grâce à ces dernières concessions comme la hausse de la prime d'activité, le repas à 1 euro pour tous les étudiants ou la création d'une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, le Premier ministre s'est assuré le soutien du Parti socialiste. À droite, la pilule reste difficile à avaler pour les Républicains car Sébastien Lecornu n'a pas respecté les lignes rouges présentées par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui réfléchit encore à censurer le gouvernement. Pour Bruno Retailleau, cela ne fait aucun doute. Ce budget va causer de la dette en plus, des emplois en moins et un pouvoir d'achat en berne pour les Français. Mais selon les informations d'Europe 1, les Républicains devraient finalement ne pas voter la motion de censure car ils souhaitent passer à autre chose. Je préfère adopter ce budget qu'une nouvelle crise politique, conclut un député de droite.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1, malgré les concessions accordées au Parti socialiste, la copie budgétaire confirmée ramènera le déficit public à 5% du PIB, selon le Premier ministre Emmanuel Macron. Salue un compromis qui permet, je cite, de garantir la stabilité et au pays d'avancer. Fin de citation. Les bourses européennes ont terminé en nette baisse il y a quelques heures. Les tensions entre les États-Unis et l'Europe inquiètent fortement les investisseurs. Tensions créées par la menace de surtaxes douanières sur 8 pays européens, dont la France et l'Allemagne, brandies par Donald Trump pour reprendre le contrôle du Groenland. Un sommet européen extraordinaire est prévu jeudi soir pour préparer une riposte. Dans l'actualité de ce mardi également, le Premier ministre espagnol qui promet une transparence absolue sur les causes de la catastrophe ferroviaire qui est survenue hier en Andalousie. Le bilan toujours provisoire fait état d'au moins 40 morts et d'une centaine de blessés. 3 jours de deuil national ont été décrétés en Espagne après cette catastrophe. Et puis dans la région Pacifique, en Australie, 3 attaques de requins en un peu plus de 24 heures ont amené les autorités à inviter la population à ne pas nager en eau trouble. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Le premier incident s'est produit dimanche après-midi à Vaucluse, l'une des plages du port de Sydney, où un jeune surfeur de 12 ans a été mordu aux jambes par un requin. Le malheureux se remet de ses blessures à l'hôpital, où son état de santé a été qualifié de critique. Hier matin, un squal a mordu la planche d'un enfant de 11 ans qui surfait à Dee, au nord-est de Sydney. Hier soir, enfin, aux environs de 18 heures, un jeune homme a été grièvement blessé aux jambes par un requin au large de Manly Beach. Immédiatement transféré à l'hôpital, il y a été opéré peu après. Toutes les plages situées au nord de Sydney ont été fermées depuis et le resteront jusqu'à nouvel ordre. Selon plusieurs experts, les eaux troubles générées par les abondantes pluies de ces derniers jours pourraient avoir contribué à ces attaques sans précédent. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi et 2 minutes sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal dans un instant. Nous allons parler sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive avec vous, Lionel Sabot.
Et ben on va commencer avec du tennis et la suite de l'Open d'Australie, évidemment, sur les cours de Melbourne. Hier, en fin de journée, nous avons suivi de près Arthur Géa, récent vainqueur du BNC Tennis Open de Nouvelle-Calédonie. Issu des qualifications, il jouait son tout premier match dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Arthur Géa affrontait le Tchèque Jiří Leška, tête de série numéro 19 de ce tournoi. Et au terme d'un match très disputé, notamment dans le deuxième set, le Français s'est imposé 7-5, 7-6 et 7-5.
C'est incroyable, en vrai, première victoire, ça fait toujours plaisir. Contre un joueur comme ça, encore plus, je dirais. Donc honnêtement, c'était incroyable. Je sais pas trop comment le décrire, quoi. J'étais devant, j'ai eu 2 balles de 7, il me semble, au deuxième. Je les ai pas faites, après je me suis fait breaker. Donc c'était dur sur le moment, mais je me suis dit qu'il fallait rebondir pour essayer de stopper un petit peu l'hémorragie. Et le tie-break, en vrai, j'ai très très bien joué. Et j'ai réussi à lui mettre un peu la tête sous l'eau à ce moment-là, quoi.
Et au prochain tour, Arthur Géa, qui a joué son premier match dans un tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem devant une quinzaine de Calédoniens, qui a fait le déplacement à Melbourne, affrontera le Suisse Stanislas Wawrinka. Un mot des autres résultats avec la qualif hier soir également d'Alexandre Muller, qui s'est imposé en 5-7 sur l'Australien Alexei Poprine. En revanche, c'est terminé dès le premier tour pour Terence Atmanin et Adrian Manarino. Aujourd'hui, nous suivrons notamment l'entrée en lice de Gaël Monfils, qui dispute vraisemblablement sa toute dernière saison sur le circuit. On va rester en Australie encore quelques instants avec du cyclisme et le coup d'envoi ce soir du Tour Down Under. Première course à étapes de la saison sur le circuit World Tour. 140 coureurs seront au départ pour un prologue de 3 600 km dans les rues d'Adélaïde. Le premier coureur s'élancera à 18h30. Et puis un mot de handball avec une troisième victoire de rang pour l'équipe de France masculine. À l'Euro, victoire 38 à 34 ce matin face à la Norvège. Les Bleus qui finissent premiers du groupe C qui entameront le tour principal du tournoi. Ce sera vendredi matin pour nous et ce sera au Danemark, bien évidemment, où se déroule cette compétition. Il est midi et 5 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.